Frapper, ça ne se pardonne pas non plus. Chercher le pardon, parfois, ce n'est pas la bonne solution. Ce serait trop facile. Alors, tu vas devoir apprendre à vivre avec et recommencer une vie nouvelle. Et comment? Eh, Picciotto, il va te falloir tout reconstruire. Tu vois ce mur qu'on fait ensemble? Si on avait fait une erreur à sa base, en mettant mal une pierre, ça ne servirait à rien d'essayer de le rattraper plus tard avec d'autres pierres, de le raccommoder. Il finirait par s'écrouler. Le mieux, c'est de tout recommencer. Et pour toi, c'est pareil, gamine. Ici, maintenant, tu dois recommencer une nouvelle vie, un nouveau mur. La jeune fille, les yeux embués de larmes, hocha la tête. Tu as bien fait de partir de la ville. Maintenant, c'est une autre vie qui t'attend. Et c'est à toi d'en tirer le meilleur. C'est ce que me disait le vieux juif, murmura Alice. Le berger frotta affectueusement la tête de la jeune fille. Allez, on travaille encore un peu, et après tu iras sortir les bêtes avec la Marie. Ainsi ils se remirent à porter les cailloux, et Luc remarqua que la jeune fille avait quelque facilité à placer les pierres sur le mur de la meilleure façon. On eût dit qu'elle avait déjà fait cela auparavant. Avec des gestes habiles, elle disposait les blocs les uns après les autres, avec beaucoup d'intelligence, faisant un mur non seulement solide mais harmonieux, comme si la chose lui fût venue naturellement. Chapitre 75. L'après-midi touchait à sa fin quand Andreas, Robin et leur cheval atteignirent le coteau qui dominait la Loire et entrèrent dans la ville d'Orléans par la porte Parisi, flanquée de deux hautes tours de garde et sous laquelle se pressait une foule immense de voyageurs et de marchands. La cité, qui était déjà après Paris et Rouen la troisième plus riche du royaume, connaissait en ce temps un formidable essor, comme l'évêque Robert de Courtenay y avait ordonné 35 ans plus tôt l'édification de l'une des plus belles cathédrales du pays, puis le pape Clément V, quelques années plus tard, celle d'une prestigieuse université de droit romain. Le pont des Tourelles, qui au sud de la ville avait été bâti sur la Loire pendant le règne de Louis VII, en faisait aussi un point de passage stratégique vers la capitale. Ainsi, au milieu de ses remparts carrés, la ville comptait un grand nombre de bâtiments, d'habitants et de visiteurs, de telle sorte qu'il fut plus aisé à l'apothicaire et son apprenti de se fondre dans la multitude. Tâchons tout de même de ne pas nous faire remarquer. Nul doute que l'ordonnance royale est affichée ici. Et je dois reconnaître que si la chose nous a certes permis de remplir ma bourse, notre petite prouesse à la carrière n'était pas le meilleur moyen de passer inaperçu. Nous partirons demain, dès l'aube, avant que la rumeur ne se répande. Tout de suite après la grande porte, ils longèrent la dite cathédrale Sainte-Croix, où les tailleurs de pierre travaillaient encore avec force bruit sur les chapelles latérales. Puis, leurs chapeaux de pèlerins bien enfoncés sur le chef, Andreas et Robin se dirigèrent vers le cœur de la ville, où étaient les commerces et les auberges. Si Orléans n'était pas aussi vaste et aussi splendide que la capitale, elle était toutefois une cité riche et vivante, pleine de clameurs, de parfums et de couleurs, et l'apothicaire, à qui Paris manquait déjà, éprouva quelque satisfaction à retrouver l'agitation d'une grande ville, ce qui explique sans doute le risque qu'il prit à s'y montrer. L'approche du printemps redonnait aux habits des teintes plus joyeuses et un esprit festif accompagnait la fin de l'hiver, comme en témoignait le retour des jongleurs et des ménestrels sur la chaussée. En chemin, Andreas et Robin croisèrent de part et d'autre des rues étroites, où pullulaient hommes et animaux, une foule de commerçants et d'artisans qui s'activaient derrière leurs auvents, un tonnelier qui mettait un fût en perse, un tailleur qui ajustait et découpait des habits bariolés sur son étal, un boucher, couvert de sang, tranchant une belle cuisse de bœuf sous le regard de grosses bonnes femmes affamées, un mercier, un barbier rondouillard, un potier, un forgeron aux muscles trempés de sueur, un menuisier barbu, des marchands ambulants qui poussaient leurs charrettes en criant leur prix, des enfants qui jouaient à la toupie au pied des maisons à colombage, des groupes d'étudiants hilares, livres sous le bras, des pèlerins épuisés et maussades, une procession religieuse priant pour repousser les démons hors de la ville, des porcs fouillant de leurs groins dans les immondices, deux chariots qui s'étaient renversés en se croisant, des porteurs d'eau grands et maigres, quelques fillettes peu vêtues, et des mendiants. Toute une faune, en somme, qui n'était pas sans rappeler la merveille parisienne.